Direction cette fois la vallée de l'Aulne, notre fleuve phare du centre Finistère, l'Aulne. Nous sommes en compagnie de l'EPAGA, l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne justement, mais aussi de l'Yerre. Et nous sommes avec le président Gaël Calvar et le chargé de mission Natura 2000, Sylvestre Boichard. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Et si nous vous avons invité, c'est pour parler du site Natura 2000 de la vallée de l'Aulne, qui justement existe depuis longtemps, mais qui change de visage. Alors, est-ce que déjà on peut rappeler ce que c'est, où il est Alors, je ne sais pas, Gaël, Sylvestre,
oui,
à quoi il ressemble actuellement, quoi, avant sa grande modification.
Donc, le site Natura 2000 de la vallée de l'Aulne, c'est un site qui englobe, comme son nom l'indique, hein, la vallée de l'Aulne, entre Châteaulin et jusqu'à Landelot sur la partie canalisée, puis après qui remonte un peu vers les sources de l'Aulne, mais qui s'arrête un peu avant au niveau de Scrignac. Voilà.
C'est quelle largeur par rapport à l'Aulne ?
Alors, ça englobe les berges, forcément, puis un petit peu la vallée aussi, parce que l'Aulne a creusé une vallée un peu profonde, et tous les boisements qui sont sur les pentes sont englobés dans le site Natura 2000. Donc, c'est un site qui a été créé pour préserver principalement trois espèces à l'origine. Donc, le saumon, qui remonte sur l'Aulne pour aller se reproduire vers les zones de source. La loutre, qui vit dans l'Aulne et sur ses berges. Et le grand rhinolophe, qui est une espèce de chauve-souris, qui passe ses hivers en fait, bien au chaud dans les ardoisières qui ont été creusées dans la vallée de l'Aulne, et qui, l'été, va plutôt se mettre dans des combles de châteaux, comme le château de Trévarez, ou d'églises, comme à l'église de Landelot, et qui va chasser justement dans ces forêts dont je parlais, de chaque côté de la rivière.
Et donc le principe d'une zone Natura 2000, c'est de faire quoi en gros ?
Un site Natura 2000, c'est un outil européen. En fait, ça vient vraiment de l'Europe. Et l'Europe a voulu préserver sa biodiversité en ciblant des espèces et des habitats rares au niveau européen.
Donc, on ne fait pas tout. Quand on dit Natura 2000, en fait, on ne fait pas toute la gestion naturelle, c'est ça.
C'est vraiment ciblé. Il y a une liste dans les directives européennes d'espèces et d'habitats naturels qui sont préservés par Natura 2000. Et après, c'est chaque pays qui a choisi en fait quel site elle allait créer et quelles espèces elle allait essayer de préserver en priorité. En France, il y a 1600 sites qui ont été créés depuis 30 ans.
Il y en a d'autres d'ailleurs, je ne sais pas, chez nous, il y en a en presqu'île de Crozon, par exemple.
Voilà, il y en a dans les Monts d'Arrée.
Voilà, ouais.
Tout à fait. Et la France, elle a choisi de faire vraiment une politique basée sur le volontariat et la recherche de compromis. Donc c'est dans
la gestion des zones, quoi.
Dans la gestion des zones, même dans le pilotage de ces zones. Le choix de la France a été de faire quelque chose d'assez concerté avec les territoires. Donc dans nos règles en France, pour chaque site Natura 2000, il y a un comité de pilotage où tout le monde est représenté, les élus, l'État, mais aussi les usagers comme les agriculteurs ou les pêcheurs.
Et c'est pas les adhérents de l'EPAGA, parce que l'EPAGA c'est un syndicat mixte, on peut dire ça comme ça, un établissement public.
L'EPAGA pilote le site Natura 2000, mais autour de la table il y a des gens qui ne sont pas membres de l'EPAGA.
D'accord.
Ça peut être la chambre d'agriculture représente les agriculteurs, le syndicat forestier là pour représenter les intérêts des propriétaires fonciers forestiers, mais il y a aussi les pêcheurs, on trouve aussi les élus de chaque commune qui sont sur le site. Et on va retrouver aussi...
Les associations de protection de la nature aussi, comme Bretagne Vivante ou Eaux et Rivières.
Et pourquoi c'est l'EPAGA qui avait été... Enfin, c'est l'EPAGA qui s'est porté volontaire pour piloter cette zone.
Il faut un gestionnaire.
D'accord.
Voilà, donc il y a un appel à candidature pour chaque site, pour savoir qui veut être gestionnaire du site. Par exemple, le PNRA est gestionnaire de certains sites et l'EPAGA De par sa...
Pour la vallée de l'Aulne, c'était
pour
logique.
La vallée de l'Aulne, c'était assez logique.
Et qu'est-ce que vous faisiez concrètement, alors, enfin, des exemples de ce que vous faisiez concrètement jusqu'à présent ?
Alors, les PAGA animent ce site Natura 2000 depuis 2013, là, ça fait 12 ans maintenant. Et on a beaucoup travaillé sur les poissons migrateurs à une période. Voilà,
le saumon, notamment.
Le saumon en particulier. On a essayé de le faire remonter sur le canal pour qu'il atteigne ses zones de reproduction. Donc, ça nous a bien occupés au départ. Puis, ces dernières années, on a pas mal travaillé aussi sur les chauves-souris avec le groupe mammalogique breton. On a protégé les colonies qu'on connaissait, puis on a découvert, grâce à des particuliers qui nous ont contactés, deux grandes colonies avec plus de 500 grands rhinolophes. Ça représente à peu près 10% de la population régionale. Donc c'est,
et qui étaient dans la zone aussi, dans la zone Natura. Mais
qui sont à proximité de la zone Natura 2000. Voilà.
Donc, d'où l'extension peut-être.
Bah, oui, c'est un peu lié. Et puis, on a aussi travaillé sur la mulette perlière, parce que...
Qui est une petite moule d'eau douce, je rappelle, on a fait plein d'émissions, donc si vous ne savez pas ce que c'est que la mulette perlière, là, c'est que vous ne nous écoutez pas. Oui, pardon. Non, mais... Oui, c'est normal que les pagas travaillent sur la mulette, puisque c'est de l'eau, voilà. C'est ça,
voilà, c'est, enfin, lié,
c'est lié à l'eau. Ouais.
Et puis surtout, grâce à un partenariat avec Bretagne Vivante, on a trouvé presque 10 000 mulettes perlières sur le bassin de l'Élèze en 2016. Voilà, donc c'est la plus grosse population du nord-ouest de la France. Et c'est une des raisons aussi pour l'extension de la zone, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'elle n'est pas assez bien préservée avec le site Natura 2000 existant.
Alors cette extension, quel est l'intérêt, quels sont les intérêts d'étendre la zone Natura 2000
comme on l'a dit, on a trouvé des grands rhinolophes à proximité, on a cette population de mulettes qui est une très grosse population à l'échelle de la France. Donc,
parce que sinon elles disparaissent beaucoup, les mulettes, faut dire.
Ouais. Elles sont en train de disparaître, donc là on a une belle population, on a les laisses qui est assez préservée. Donc, on veut pouvoir préserver cette population à cet endroit-là. Et le but de l'extension, c'était d'amener les outils, par exemple, au monde agricole pour continuer leur pratique. Parce que si ces populations sont là, et si on a des grands rhinolophes et des belles populations de grands rhinolophes, par exemple, c'est que les pratiques agricoles qui sont dans les territoires ne sont pas si mal que ça.
C'est que ce n'est pas trop pollué, en fait, c'est ça.
pas pollué, ou qu'on a des belles prairies, des prairies en bordure de cours d'eau, des prairies humides.
Du bocage,
on a beaucoup de bocage. Si on a ces pratiques, ces populations-là, c'est que les pratiques sont bonnes. Mais pour pouvoir garder ces pratiques, il faut, pour certains agriculteurs, il va falloir... avoir des outils financiers ou des aides pour continuer à utiliser ces prairies, par exemple.
Oui, parce que être en zone Natura 2000, donc ça veut dire déjà définir un périmètre précis, j'imagine. Donc là, ça va s'étendre sur combien de communes, sur quel territoire, Sylvestre?
Le site Natura 2000 actuel, il fait 3500 hectares et il est sur 22 communes. Et là, il passerait à 7500. Il augmenterait de 7000 hectares. Donc, il passerait à 10500 hectares.
Ah oui, c'est plus que doublé, là.
Alors, en fait, c'est notre périmètre d'étude.
D'accord. Parce que ce n'est pas encore défini. Vous commencez par une étude. D'accord.
On a fait l'étude pour savoir quelles zones seraient intéressantes. On a échangé avec les élus. Les 6 derniers mois, on a rencontré toutes les communes concernées par l'extension. Et là, maintenant, on va rencontrer les premiers concernés, les propriétaires et les agriculteurs qui seraient dans l'extension.
En fait, sur les 3500 hectares à l'origine, là, le périmètre d'étude, 10500 hectares. Et après, en rencontrant les agriculteurs et les forestiers et les particuliers, il y a peut-être des endroits où on va enlever les parcelles parce que ça ne les intéresse pas. Le but, comme a dit Sylvestre tout à l'heure, c'est la concertation. Donc de toute façon, comme on veut qu'il y ait de la concertation, si un propriétaire nous dit « Non, moi, cette parcelle-là, ça ne m'intéresse pas, mais par contre, vous avez oublié ma parcelle à côté, là, et celle-là, elle m'intéresse de rajouter dans le site. Donc si c'est intéressant pour Natura 2000, on la rajoute. » Donc sur les 10500, on va peut-être enlever 500 hectares et en rajouter 200. Voilà. Donc le périmètre d'étude est vaste. Après, c'est aussi une volonté politique du comité de pilotage de le faire très, très grand, ce périmètre, parce que les enjeux sont importants.
Il y aura assez de crédits, enfin, c'est pas, on ne conditionne pas quand même l'extension financièrement, je veux dire. L'Europe ne dit pas, bah non, là, ça fait trop.
Alors, en fait, c'est la région Bretagne qui a la main sur les financements européens là, depuis quelques années. Et donc, ils suivent, ben, forcément, ils sont au comité de pilotage et ils suivent tout ce qu'on fait. Donc, tout ça, c'est validé par les services de la région. Et eux, ils ont trouvé qu'on avait des vraies justifications scientifiques, en fait, derrière, avec ces nouvelles espèces, ces nouvelles populations qui ont été découvertes. Et donc, ils ont décidé de mettre le paquet. En fait, hein, on a pu recruter une chargée de mission pour venir faire cette concertation. Et c'est financé par la région et par l'Europe.
Coucou Maëlle Aperon, voilà, qui est la chargée de mission. C'est elle qui rencontre les gens. Donc, combien de personnes elle va rencontrer
Elle a commencé ses permanences, elle les a commencées cette semaine. Hein,
Elle
les a commencées mardi.
Donc, c'est sous forme de permanence. Donc, oui. Vient qui veut.
C'est ça. Dans chaque mairie concernée. Quoi.
Donc, 35 communes, c'est ça hein
30, ouais. Oui, 35 communes, ouais. 700 courriers qui sont partis.
Il y a
eu des courriers. Les communes font de la pub pour les permanences. Il y a du monde à venir aux permanences. Et comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des zones qui sont validées ou qui sont enlevées, rajoutées. Enfin, ça marche bien.
Et quel est le type, en fait, c'est plutôt des propriétaires privés, est-ce que c'est plutôt des gens qui font de l'agriculture ou des forestiers, ou est-ce que c'est des communes qui possèdent les terres dans la zone concernée? C'est quoi, en gros?
C'est principalement des parcelles privées. Il y a quelques parcelles publiques. Hein. C'est pour ça qu'on a commencé par rencontrer les élus. C'est aussi pour connaître tous les projets qu'avait chacune des communes, pour pas... aller bloquer des projets qu'ils auraient, ou à l'inverse, des fois, il y a des communes qui veulent protéger certaines zones, comme des périmètres de captage d'eau potable. Et voilà, on a rajouté certaines zones suite à ces échanges-là. Donc, les communes avaient quand même leur mot à dire, mais c'est principalement des parcelles privées. On parle, en fait, on a fait un peu le calcul, enfin, c'est Maëlla qui a fait le calcul, là. Dans le périmètre d'études, il y a 57% de parcelles boisées, 29% de prairies et de landes, 5% de cours d'eau et de tourbières, et 6% de zones cultivées et 3% d'infrastructures comme des routes, des hangars, des choses comme ça. Donc on voit que...
C'est de la forêt surtout, en fait.
C'est principalement de la forêt et de la prairie.
Et quel type de forêt? Parce qu'on sait que parfois dans les monts d'Arrée, il y a beaucoup de résineux, c'est pas forcément terrible. Est-ce que c'est quand même diversifié?
Ça aussi, on a fait le calcul. On est les trois quarts sur les 57% de parcelles boisées. Les trois quarts, c'est de la forêt qui a poussé toute seule, en fait. Voilà.
Spontanée.
De la forêt spontanée, c'est pas des plantations. Et on a essayé vraiment, en fait, de mettre le moins possible de plantations de résineux et de cultures aussi, hein, parce que tout simplement, c'est pas des parcelles intéressantes pour la biodiversité. On les a mis uniquement quand elles étaient près d'un cours d'eau ou vraiment qu'elles étaient à côté d'un réseau bocager qui servait de communication pour les chauves-souris.
Et en termes d'espèces, donc on a les chauves-souris, la mulette, toujours le saumon ou non ça, enfin, oui.
Bah, il y a les poissons migrateurs que sont le saumon, mais on a aussi la lose, la lamproie qui sont concernées. Et après, on a des espèces floristiques. Alors, le flûteau sauvage, par exemple.
Le nageant.
Flûteau nageant.
Presque.
Et quoi, c'est une plante aquatique, non?
Ouais, ça c'est une plante aquatique. Et disait Gaëlle, on a aussi travaillé avec des botanistes et on a trouvé qu'il y avait quelques stations de plantes rares, en particulier des plantes de tourbière qui n'étaient pas loin du site actuel. Donc ça, c'est un enjeu qui s'est rajouté après, par exemple, autour de Châteaulin, il y a quelques petites tourbières dans les hauteurs entre Caste et Châteaulin ou entre Dinéol et Châteaudun. Et là, on a essayé de les intégrer à l'extension.
Ah oui, oui, c'est vraiment grand. Et alors, quel peut être l'intérêt pour un propriétaire de faire partie de la zone Natura 2000? Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre?
Alors, y a le premier intérêt, en fait, ça va être de pouvoir favoriser d'un conseil gratuit par des experts qui connaissent bien la biodiversité et quelles actions mener pour la préserver. Donc ça, c'est vraiment grâce au financement européen, il y a des agents qui sont là et qui peuvent conseiller les gens. Ça, c'est vraiment le premier intérêt. Et après, il y a des outils financiers pour les propriétaires qui veulent s'engager un peu plus, qui veulent mener des actions. Là, la loi française prévoit ce qu'on appelle des contrats Natura 2000. Et ça finance à 100%, en fait. Le propriétaire n'a rien à financer, à part un peu de temps à monter les dossiers. Mais il peut, par exemple, arracher des lauriers palmes qui commenceraient à envahir sa forêt, installer des gîtes à chauves-souris, des nichoirs à chauves-souris.
Oui, c'est ça. Quelles sont les actions en question, hein, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être par exemple, pour un agriculteur? Alors, qu'est-ce que ça peut être une action pour un agriculteur?
Pour les agriculteurs, c'est d'autres outils. Ce n'est pas des contrats Natura 2000, c'est les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Et là, ça va être tout ce qui est le maintien de milieux herbacés ouverts, en fait, de prairies, quoi. Voilà. Clairement, la prairie, c'est un super support pour la biodiversité. Et donc, pouvoir les entretenir en fauche tardive ou en pâturage extensif, c'est génial, quoi, pour les chauves-souris, pour la qualité de l'eau, etc. Donc là, il va y avoir des aides aussi pour ça.
Fauche de lande et tout ça, ça en fait partie. Alors, aussi.
Aussi, oui. Ouais. On ne sera pas sur le même cas de figure que le site naturel des Monts d'Arrée, où c'est des énormes surfaces de lande. Mais on a essayé d'intégrer, en effet, des petites zones de lande et de tourbières, comme je le disais là. Et là, oui, il y a aussi des outils pour empêcher que les arbres, en fait, viennent tout étouffer et maintenir des milieux ouverts. Ouais.
Donc, pour les propriétaires, il faut quand même qu'ils soient convaincus que c'est nécessaire de conserver la biodiversité, on est d'accord? Enfin, c'est des pêcheurs, peut-être, sinon, les propriétaires...
Oui, c'est vrai que les pêcheurs ou les chasseurs, par exemple, ils l'ont bien compris depuis longtemps qu'en favorisant certaines espèces, en fait, ils y gagnent eux aussi, parce que tout est lié dans la nature, donc... si on veut favoriser la mulette, de toute façon, on est obligé de favoriser la truite. Donc, les pêcheurs sont contents. Et après, de façon générale, quand même, les gens qu'on a commencé à rencontrer, la plupart, ils sont attachés à leur patrimoine. Hein, en fait, c'est...
pas forcément des militants de l'écologie, c'est ça, mais...
C'est plus... c'est une certaine qualité de vie, d'avoir des belles forêts, des jolies prairies, des jolis ruisseaux à côté de chez soi, pouvoir s'y promener, les observer, même sans être pêcheur ou chasseur. C'est important de pouvoir préserver ce patrimoine et ça parle aux gens, quand même.
Et sinon, qu'est-ce qu'on ne peut absolument pas faire une fois qu'on est classé Natura 2000? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Quelles sont les contraintes éventuelles, quoi?
Il y a aussi des contraintes. Et les contraintes, en fait, ça va être si on veut vraiment modifier les pratiques ou l'aspect de la parcelle. Par exemple, si c'est une prairie, si on veut faire des plantations de résineux dessus, c'est pas impossible de le faire. Mais par contre, ça va nécessiter ce qu'on appelle une étude d'incidence. C'est une petite étude pour essayer de comprendre l'effet que le projet va avoir sur les espèces qui sont protégées par le site Natura 2000. Voilà, typiquement, une plantation de résineux, il va falloir prévoir de ne pas planter au bord de la rivière s'il y a des saumons qui viennent pondre dans la rivière ou s'il y a des mulettes perlières dans la rivière juste à côté. Il faudra laisser une bande... De 20 ou 30 mètres, ça va dépendre des zones, sans plantation au bord de la rivière. Ça peut être aussi de ne pas planter dans une tourbière, préserver les espèces qui sont dedans. Voilà, c'est un exemple assez concret. Ça peut être aussi si on veut mettre en culture des...
Je pensais à tout ce qui est agriculture.
Pour les zones cultivées, en fait, elles sont déjà cultivées, il n'y a rien qui change. Donc,
elles peuvent être en zone Natura 2000,
oui,
même si elles sont cultivées.
Ouais, site Natura 2000 existant, il y a beaucoup de zones en culture le long de l'Aulne. Il suffit de se promener le long de l'Aulne, il y a beaucoup de cultures, ça ne pose pas de problème. Là où il va y avoir une étude à faire, c'est s'il y a une modification des choses. Donc si une forêt, on veut la mettre en culture, ou si une prairie permanente, on veut la mettre en culture. Là il faudra faire une étude. Et quand on dit faire une étude, l'étude est adaptée en fonction du projet. Si on veut construire une autoroute, ça ne va pas être le même niveau d'étude que si on veut planter un hectare de résineux. C'est adapté. Et donc, nous, on est là aussi pour conseiller les gens qui portent les projets. Donc, quand c'est des petits projets par des particuliers, c'est nous qui les aidons à rédiger les documents et qui faisons les choses avec eux, en fait. Quoi. Mmh. C'est plus dans l'échange et dans la recherche de compromis.
Gaël Calvar, alors vos camarades élus de l'EPAGA ou d'ailleurs, comment ils reçoivent ce projet pour l'instant ?
Ben, plutôt pas mal, en fait. Certains avaient un peu... ne connaissaient pas le principe, donc on a fait beaucoup de réunions, ça a été présenté dans chaque commune, et en fait, il y a des bons retours, et même des communes qui se disent, on avait des projets environnementaux, certaines parcelles qui appartiennent aux communes, où on ne savait pas quoi en faire, et là, comme ça va passer en Natura 2000, ou tout compte fait, on va le rajouter en Natura 2000, ils se disent, pourquoi pas aller mettre de l'éco-pâturage, aller faire de la promotion de ces parcelles-là, et de se dire, ça peut être un atout aussi. Et il y a des communes qui vont passer sur qui vont augmenter énormément leur surface en Natura 2000, et vont même avoir des subventions de l'État pour ça.
Oui.
Voilà, parce que... voilà, c'est ce qui s'appelle les aménités rurales, c'est une aide de l'État. Et dès qu'il y a tant d'hectares qui passent en Natura ou en zone protégée, ça leur donne des sous. Donc,
ah oui.
C'est intéressant aussi financièrement pour les communes. Et pour d'autres communes, c'est aussi de se dire, au niveau de l'image, c'est... on n'est pas... Pour certaines, elles sont membres du PNRA, mais là, c'est
du
aussi...
Parc d'Armorique, ouais.
Voilà, du Parc d'Armorique, mais là, ça va être aussi... Tant de la surface de la commune est Natura 2000. C'est aussi un outil de communication, je pense, pour les communes.
Il y a une commune qui nous a demandé si on pouvait faire des panneaux. Vous entrez dans la zone Natura 2000 à l'entrée de leur commune.
Alors, l'EPAGA peut faire des panneaux ? Est-ce que c'est le rôle de l'EPAGA de faire des panneaux ?
Je pense que c'est un outil. Je pense que c'est aussi un outil de communication parce que on a quand même beaucoup d'élus qui ont une sensibilité environnementale, et ça fait partie de leur projet, en fait. Donc, oui, on voit avec sur certains projets, on voit vous entrer dans une commune ville, terre de jeu pour les Jeux Olympiques. Pourquoi pas vous entrer dans une commune faisant partie de Natura 2000 ? Je pense que c'est des choses intéressantes à avoir.
Ouais. Et donc, quand l'extension sera terminée, ça sera la plus grosse du Finistère, non ?
Non,
beaucoup de boulot.
Même si on englobe tout le périmètre d'études, là, on sera encore plus petit que le site Natura 2000 des Monts d'Arrée.
Ah oui. Et ça sera terminé quand ? Enfin, peu près.
Là, la consultation là est jusqu'à cet été. Le but, c'est de retourner en comité de pilotage au tout début de l'été, pour pouvoir proposer au préfet une carte finalisée, et que le préfet, avant les prochaines élections municipales, puisse émettre un avis et demander aux communes leur avis pour qu'ils puissent décider, et on espère fin d'année 2025, qu'ils puissent faire l'arrêté préfectoral de la nouvelle zone Natura 2000 de l'extension.
D'accord, merci beaucoup, on suivra tout ça. Au revoir.
Au revoir.